Alors, salut tout le monde, bienvenue dans cette première présentation du podcast de Nakan.ch, le podcast du sportif connecté. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette expérience du podcast. Donc, cette fois, je suis pas derrière un écran, je suis pas derrière un clavier, mais je suis derrière juste un micro et puis je vais échanger plusieurs thématiques au cours des prochains mois, des prochaines semaines avec Hermano qui me rejoint dans ce projet de podcast qui mûrit chez moi depuis un certain temps. Et puis, c'est grâce à un commentaire que tu as laissé sur mon blog, Hermano, qu'on a fait connaissance et puis qu'on a élaboré ce projet de podcast des sportifs connectés.
Effectivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nakan. C'est vrai que c'était un projet qui, finalement, a vu le jour très vite. Je pense que tu l'avais déjà bien mûri de ton côté. Moi, j'avais l'envie de me remettre au podcast. En tout cas, ça s'est fait très vite et je suis enchanté de parcourir ce petit bout de chemin avec toi.
Eh bien, écoute, pour moi aussi, c'est vraiment un plaisir de me lancer dans ce projet. Et effectivement, comme tu l'as dit, donc ça fait plusieurs années que je pense de mon côté à un podcast qui vienne en parallèle des thématiques que je traite sur le blog. Donc, c'est-à-dire que le podcast, je le vois un petit peu plus comme un média qui permet d'aborder au sens large des thématiques comme l'entraînement sportif, donc dans le sport d'endurance que je traite également sur le site internet, et puis des sujets qui sont un petit peu annexes à ça comme l'alimentation du sportif, et puis évidemment de traiter aussi des thématiques que j'aborde plus directement sur le site comme la technologie dans le sport. On va parler probablement aussi au cours des prochains épisodes de montres connectées, de fonctions d'algorithmes, etc. dans ces montres, de plateformes d'analyse de sport en ligne aussi. Donc voilà, c'est tout des thématiques qui me passionne, que les lecteurs du site qui nous écoutent aujourd'hui connaissent probablement à travers mes différents articles. Et puis aussi, elle a abordé peut-être un petit peu des thématiques nouvelles que toi, probablement, Hermano, tu vas nous amener aussi. Et puis que certains invités qui vont se joindre à notre podcast à l'avenir vont pouvoir partager avec nous également.
J'espère bien, surtout qu'on a déjà une belle brochette d'invités qui ont répondu présent pour les premiers épisodes. Donc, comme tu l'as dit, on va aborder entre autres les algorithmes d'entraînement, on va aborder l'alimentation du sportif, peut-être une alimentation un peu plus spécifique sur le sportif d'endurance sans s'y limiter non plus, et puis j'espère aussi qu'on va aborder pas mal de thématiques un peu plus techniques.
Donc l'idée du podcast au niveau purement logistique, je dirais, c'est un épisode qui va être publié toutes les deux semaines. Donc avec une thématique particulière qui sera discutée, avec un invité ou non, ça dépendra de la thématique et puis de la disponibilité de nos éventuels invités. Et on va se retrouver comme ça toutes les deux semaines avec une thématique intéressante et puis un débat par rapport à ça. Mais peut-être avant de commencer à aborder ces thématiques, ce sera l'objet du premier épisode officiel de ce podcast qu'on va diffuser du coup dans deux semaines. Mais c'est peut-être de se présenter, que nos auditeurs nous connaissent peut-être un petit peu mieux, qui sachent un petit peu d'où on vient et d'un point de vue podcast, site internet, etc. Puis aussi notre passé sportif d'endurance pour qu'on se rende compte un petit peu des galères probablement qu'on a déjà traversées dans nos entraînements respectifs. Alors, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter, Hermano ?
Allez, c'est parti. Donc, tu l'as dit, moi je m'appelle Hermano, j'ai tout fraîchement 39 ans, je suis papa de 3 enfants, alors du plus jeune qui a presque 10 ans au plus âgé qui a 21 ans maintenant, et puis au milieu, donc c'était 2 garçons qui bornent la fratrie, et puis au milieu, on a une fille qui est sur ses 17 ans, une famille qui a déjà bien roulé sa bosse, et pendant que nous avons élevé nos enfants, je me suis adonné avec plaisir, entre autres, au sport d'endurance. Et comme toi, je crois que j'ai choisi le triple effort, à savoir le triathlon. Alors, je reviendrai pas forcément sur mes choix, parce que, à vrai dire, je sais même pas pourquoi j'ai choisi le triathlon. C'est un sport qui s'est présenté à moi et dont je suis tombé amoureux. Je suis pas encore monté sur la distance reine qu'est l'Ironman, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour. Et donc, pour revenir sur mon entre guillemets passé de sportif, j'ai pas mal pratiqué de 18 à 25 ans, j'ai fait une belle petite pause entre 25 et 30 ans, et puis après, vers 30 ans, je me suis préparé pour justement monter sur mon premier Ironman, en passant par les championnats de France longue distance, et puis d'autres belles courses. Bon, malheureusement, des soucis de santé m'ont un petit peu éloigné des terrains de jeu, donc maintenant je reprends doucement, et surtout avec la recherche du plaisir de nager, plaisir de courir, plaisir de rouler. Bon, petit arrêt l'année dernière. On y reviendra aussi. On peut presque dire que je me suis pris une porte, mais bon. Donc le vélo, c'est un peu de côté pour l'instant, mais ça va revenir. Et j'espère bien qu'on se croisera un de ces quatre sur un des beaux parcours des Ironman suisses.
Ah bah j'imagine, oui. On a vraiment un terrain de jeu sympa ici. Dans les Alpes et puis l'Ironman de Zurich hein, auquel j'ai participé déjà. Effectivement, on a des jolies courses avec juste à côté de chez moi le Lavaux, le Lac Léman, donc vraiment un terrain de jeu formidable ici pour s'entraîner. Donc si tu veux venir courir quelques kilomètres, nager un peu cet été, alors franchement, t'es le bienvenu.
On a pas mal parlé de moi, mais est-ce que tu peux te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que t'as fait dans le sport, et puis après on viendra peut-être sur ce que tu fais maintenant dans la vraie vie et même sur l'internet.
Ouais. Au niveau du sport, moi à la base je suis vraiment pas un sportif d'endurance, en tout cas je suis arrivé sur le sport d'endurance sur le tard, parce que pendant longtemps j'étais un sédentaire affirmé quoi. Donc j'étais fumeur, j'ai fumé jusqu'à un paquet de cigarettes par jour, j'étais vraiment actif juste quand il fallait aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres ou pour marcher jusqu'à la voiture, mais voilà, je faisais pas de sport du tout. C'est peut-être rien que ça, en allant à faire les courses à pied, que j'ai commencé à faire du sport d'endurance, en fait. Après, j'ai commencé un petit peu le vélo, mais alors vraiment tout doucement, en empruntant le vieux vélo de course de mon grand-père. Alors, je m'en souviens très bien, c'était un cadre en acier, et puis il y avait encore ces changements de vitesse, tu sais, sur le tube
sur le cadre.
Du cadre en bas, là. Et ouais, je sais pas, derrière, il y avait quoi, 5-6 vitesses, quoi. Enfin, c'était rigolo. Mais j'allais faire quelques kilomètres avec ce vélo de course, et puis j'ai été surpris par le sentiment de vitesse que j'avais sur ce vélo par rapport à tous les autres trucs que j'avais utilisés quand j'étais gamin. Et je me suis acheté ensuite, quelques mois plus tard, mon propre vélo de course. Alors déjà, c'était la grosse différence par rapport à celui que je roulais jusque-là.
C'était juste un énorme fossé entre un vélo de 45 kilos et un d'une dizaine.
Voilà, c'était ça. Ouais. C'est passé de l'acier à l'aluminium, c'était déjà un formidable bond technologique. Ah. Et j'ai fait d'abord des sorties de 10, 15, 20 kilomètres. Et puis après, ça a commencé à s'allonger au cours de la saison estivale qui arrivait. Et arrivé le premier hiver, et puis là, j'ai rangé mon vélo à la cave. Et puis ici, dans les régions où j'habite, il y a de la neige, il fait froid. Et puis le vélo, c'est absolument pas une option, en tout cas à l'extérieur. Et puis j'ai recommencé après, l'année d'après, au mois d'avril. Et là, franchement, j'ai recommencé de zéro. Et j'étais vraiment surpris et déçu de recommencer de zéro. Ce qui fait que là, je me suis promis que après ma saison de vélo, j'allais faire quelque chose pendant l'hiver suivant, pour pas devoir recommencer à nouveau à zéro l'année d'après, et ainsi de suite, parce que sinon, ce serait juste un éternel recommencement. Donc, arrivé l'automne, j'avais fait plus de kilomètres à vélo que l'année d'avant, j'ai fait quelques cols dans les Alpes et dans le Jura autour de chez moi, et puis pendant l'hiver, je me suis mis à la course à pied. Alors là, c'était vraiment à corps défendant, quoi, parce que la course à pied, c'était vraiment pas un truc qui m'intéressait, et c'était vraiment dans l'idée de pas retourner sur mon vélo complètement essoufflé au mois d'avril suivant. Donc pendant l'hiver, j'ai couru, et puis ce qui est assez impressionnant, c'est à quel point, après, je dirais, 3-4 semaines où vraiment c'était difficile de se motiver pour aller courir parce que ça fait mal, les jambes font mal, t'arrives pas à respirer, enfin bref, c'est compliqué. Mais rapidement, quelques semaines après que j'ai commencé la course à pied, je commence à y prendre goût. Et puis l'année d'après, quand je reprends le vélo, j'arrête pas forcément immédiatement la course à pied, mais je continue les deux sports. Donc je cours, mais bon, quand je dis je cours, c'est du 5-8 km, quoi. La plus grande sortie, elle doit faire 8,5 km. Enfin, je me suis jamais confronté aux 10 km. Et là, je reprends le vélo, je continue la course à pied. Arrive le mois d'août, et là, je me promène à Lausanne, vraiment comme un touriste le samedi. Je vais faire un peu de shopping, etc. Puis, je tombe sur une barrière au milieu de la route. Je regarde qu'est-ce qui se passe avec cette barrière. Derrière cette barrière, il y a des cyclistes qui passent, puis ils sont tout mouillés. Et puis, je me demande, mais pourquoi il y a des cyclistes tout mouillés qui sont en train de rouler là, dans les rues de Lausanne? Je peux même pas traverser la route.
C'était quand? C'était genre en 1800 quelque chose, non?
Non, c'était 2008. C'était en août 2008. C'était le dernier week-end d'août 2008. Et parce que c'était le triathlon de Lausanne. Et en fait, je savais pas du tout ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de triathlon. Enfin, probablement une fois ou l'autre le nom de ce sport, mais enfin sans plus. Et puis là, je me rends au bord du lac à Lausanne et je vois toute l'infrastructure qu'il y a là autour. Je vois les gens qui nagent, qui font du vélo, qui courent, puis je trouve ça absolument génial. Et puis surtout, je me dis, mais en fait, tu fais déjà deux des trois trucs, quoi. Donc tu fais déjà de la course à pied, tu fais déjà de la natation, du cyclisme. Et donc, il te reste à faire un peu de natation. Et puis bon, ça a l'air facile, les mecs, ils vont dans l'eau, ils nagent un peu et tout ça. Donc je me fixe comme objectif l'année d'après de commencer le triathlon. Et je commence à nager un peu. Au début, c'est extrêmement dur et je me rends rapidement compte que sans avoir quelqu'un qui m'entraîne en natation, ça va pas être possible. Et donc, je prends des cours de natation pour adultes dans un stage d'été. J'arrive à boucler bon gré mal gré 500 mètres. Donc, je me dis, c'est bon, je suis prêt. Et là, en 2009, je fais mon premier triathlon sur distance short. Donc, 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et puis là, à l'arrivée, bah voilà, je suis complètement fracassé, mais heureux d'avoir accompli mon objectif ultime sportif de ma vie, parce qu'à ce moment-là, je suis convaincu que je vais pas en faire plus. Mais bon, bah tout ça, c'est sans compter sur le fait que je me documente un peu plus sur le triathlon, et puis j'apprends l'existence forcément de l'Ironman, quoi. Au bout d'un moment, t'arrives, tu tombes là-dessus, tu discutes avec des triathlètes, tu regardes des sites de triathlon, rapidement, t'es confronté à ce logo, t'es confronté à ces distances qui te semblent complètement extraterrestres. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, bon, maintenant, t'as fait le premier niveau, maintenant, tu vas aller là. Et je me fixe l'objectif d'aller là. Et donc là, les objectifs, je les découpe en phases. Et puis, en fait, le premier objectif, c'est d'arrêter de fumer.
Ah, parce qu'à l'époque, tu fumais encore.
Eh, je fumais encore, ouais. Alors, j'avais réduit ma consommation de cigarettes, mais je fumais encore, ouais. Et donc là, le premier objectif, c'est d'arrêter de fumer. Le deuxième objectif, c'est de finir un semi-marathon. Le troisième objectif, c'est de finir un demi-Ironman. Le troisième objectif, c'est de finir un marathon qui se fera en 2011 à Lausanne. Et puis, bah, l'objectif ultime, c'est d'arriver à l'Ironman. Et l'Ironman, il se réalisera en mai 2012 sur l'île de Lanzarote aux îles Canaries pour mon premier Ironman complet que je termine en 12h41. Donc voilà mon parcours dans le sport.
T'as quand même pas choisi le plus moche, mais le plus facile non plus, quoi.
Alors non, clairement pas. Et encore, j'ai eu de la chance parce que en 2012, quand j'ai fait mon premier, les conditions atmosphériques étaient particulièrement clémentes. Parce que ensuite, dans l'Ironman, j'en ai fait encore deux. J'ai fait 2014 à Zurich, donc chez moi en Suisse. Et puis 2016, je suis retourné à Lanzarote. Et là, j'ai rencontré les vraies conditions météo de Lanzarote, c'est-à-dire que tu fais 180 km de vélo avec du vent de face tout le long. Et tu sais pas pourquoi, mais quand tu prends un virage, le vent, il prend le même virage que toi. Et dans les faux plats descendants, si tu pédales pas, bah tu remontes. Et donc, du coup, c'était l'enfer sur Terre. Et cette année-là, et ben en fait, j'ai fait 12h42, donc une minute de plus que mon premier en 2012. Mais par contre, j'étais entraîné comme une machine, donc j'avais l'impression de pouvoir faire facilement une heure et demie de moins, quoi. Mais ben voilà, les conditions ont décidé autrement. Donc voilà comment je suis passé de mon canapé et de mon paquet de clopes à l'Ironman de Lanzarote.
Ah, belle histoire. Et donc depuis, tu les enchaînes, tu manges un Ironman au petit-déj à chaque fois, quoi.
Alors non, l'Ironman, ça reste quand même quelque chose qui est pas anodin et qui, pour moi en tout cas, est quelque chose de relativement destructeur, dans le sens où après un Ironman, je sers plus à grand-chose pendant très longtemps. Et c'est pas forcément une distance qui me convient très très bien parce que je mets vraiment longtemps à récupérer. Et donc du coup, j'ai jeté mon dévolu plutôt sur la demi-distance et c'est vrai que maintenant, je dois être à mon 12e ou 13e Alpha Ironman. Et ça, c'est vraiment des distances que j'apprécie particulièrement. Ouais.
L'ancien fumeur adepte du canapé qui s'est mis au vélo et après à la course à pied un peu par dépit, mais pour pas continuer à cracher ses poumons à la reprise, et qui s'est même mis à nager, qui devient Ironman, c'est une belle évolution.
Alors, moi, je trouve que c'est une belle évolution. Et puis, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est la preuve que à peu près n'importe qui se met ça comme objectif et qui se donne les moyens peut y arriver. Parce que j'ai aucune prédisposition génétique à faire du triathlon. J'ai pas une VO2 max qui va péter le plafond. J'ai fait plusieurs tests de VO2 max. J'ai rien d'extraordinaire comme athlète et je battrai jamais aucun record, ne serait-ce que de mon village en athlétisme ou dans n'importe quel sport. J'ai pas de prédisposition au niveau de ma structure. Je suis un type qui est relativement lourd. Donc sur un vélo, on va dire que je suis un mec qui ressemble plus à un coureur de classique qu'à un type qui va aller gagner dans la montagne. Donc c'est clair que les 2500 mètres de dénivelé positif de Lanzarote, il m'avantageait pas du tout, quoi. Et sur un vélo, c'est vrai que j'ai pas forcément la légèreté d'un grimpeur. Et puis en course à pied aussi, je suis relativement lourd. Alors mon gabarit m'avantage peut-être un tout petit peu en natation, et c'est vrai que là, dans cette discipline, c'est celle où je suis le moins mauvais, mais j'ai pas non plus de prédisposition particulière, quoi. Quand je nage un 100 mètres en 1,25, c'est vraiment que je suis à fond, quoi. Donc, il y a rien d'extraordinaire dans ce temps-là non plus. Donc, je considère que je suis la preuve vivante que si t'as envie d'aller sur un Ironman et que tu te donnes les moyens et que tu le fais correctement, n'importe qui sur cette terre qui n'a pas de problème de santé particulier peut y arriver.
Et même quelqu'un qui avait entre guillemets des problèmes de santé, qui était un gros fumeur, peut y arriver aussi, donc c'est pas perdu.
Non, effectivement. Et puis qu'à tout âge, on peut s'y mettre, parce que jusqu'à 26 ans, j'avais jamais fait de sport d'endurance.
Belle histoire. Enfin, en tout cas, c'est bien la preuve aussi qu'en triathlon, pour être un bon triathlète, surtout sur les distances plus longues à partir du Half Ironman, il ne suffit pas d'être bon en natation, bon en vélo et bon en course à pied, il faut plutôt, je dirais, être pas trop mauvais dans tout pour pouvoir performer sur l'exercice au complet.
Voilà, c'est sûr, c'est qu'il faut réussir à gérer son entraînement pour avoir un niveau qui est équitable dans les trois disciplines. Rien ne sert d'être un coureur extraordinaire et puis d'arriver à claquer un kilomètre en 3 minutes 40 sur un 5 bornes si après sur ton vélo t'es complètement à la ramasse dès qu'il y a 5% de pente, quoi. Et puis pareil en natation, il y a beau avoir que 1500 mètres dans un triathlon de distance olympique, si tu sais pas nager, ça va te finir physiquement. Donc après sur le vélo et sur la course à pied, même si t'es un excellent cycliste ou un excellent coureur, bah, t'auras plus d'énergie. Bah,
la preuve, même sur de l'endurance, je sais pas si t'avais noté Jalabert quand il s'est mis, quand il est monté sur Ironman, il était sorti, je crois, dans les derniers en natation. Il a remonté quasiment tout le monde en vélo, mais malgré tout, après, il y avait encore un marathon derrière, et c'est pas pour autant qu'il a gagné. Donc, il a non seulement des prédispositions génétiques, il a été sportif de haut niveau, et quand il s'est mis à l'Ironman, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a appris à nager.
Effectivement, ouais.
Bon, bref, ce sera éventuellement le sujet d'un autre épisode, parce que là, on est censé se présenter à vous, chers auditeurs chéris, et on est en train de s'étaler sur des sujets qui très certainement seront abordés dans les épisodes suivants. On pourra parler, par exemple, on en a parlé en intro de ce podcast, mais on abordera la nutrition, on abordera les aspects techniques d'aide à l'entraînement, et je pense qu'il va y avoir des débats bien nourris avec nos invités ou même entre nous.
Ah oui, ça j'imagine, parce que aujourd'hui, dans le monde de l'entraînement et avec tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est que tout le monde a son avis, et puis on est de plus en plus en train d'être évangélisé par une technique ou par une autre, et puis on défend sa crèmerie bec et ongle. Donc des fois, c'est des oppositions de style assez intéressantes.
Ouais. Bon, en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette histoire de comment tu es venu au triathlon, et c'est vrai que pour ma part, ça s'est fait sur une période beaucoup plus longue. T'es plus petit, j'ai toujours été l'archétype du petit gros. Voilà, j'étais un jeune qui est bien mangé, j'avais un peu d'embonpoint, et puis vers 14-15 ans, j'ai découvert, comme toi, le vieux vélo en acier avec le passage de vitesse au cadre, et j'y ai pris goût. J'ai commencé à monter sur le vélo pour aller faire mes courses, monter sur le vélo pour aller à l'école. Après, j'ai commencé à rallonger les distances en montant chez les copains qui habitaient un peu sur les hauteurs de la ville où j'habitais. Et puis, de fil en aiguille, je me suis lancé dans la découverte de ce sport. Et j'avais jamais vraiment aimé courir. Par contre, j'aimais bien aussi nager. Je nageais pendant les vacances en partant avec mes parents. Et de temps en temps, j'allais à la piscine. Alors vers 15-16 ans, on commence à être grand, on commence à se prendre pour... On commence à vouloir avoir un corps bien sculpté. Donc je me rappelle très bien qu'avec un copain, on avait été à la piscine, on s'amusait à faire des longueurs. Et puis, on avait vu une pancarte pour un triathlon. À l'époque, je te parle de ça en 96, hein. On n'en parlait pas beaucoup. et on s'est fixé le défi de s'aligner sur ce premier triathlon qui était distance sprint. Et c'est comme ça que deux cyclistes du dimanche et nageurs une ou deux fois dans la semaine, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à nager. J'ai continué à rouler et puis j'ai appris à faire de la course à pied. Et voilà, j'ai commencé comme ça l'histoire. Je suis rentré dans le triathlon à 16 ans par la petite porte et j'en suis jamais sorti. Et comme je te disais en intro, bah j'ai failli monter sur Ironman à quelques soucis de santé près, mais je ne désespère pas d'y revenir dans les années à venir.
Ça reste quand même, je pense, pour tout triathlète, hein, ça reste cette espèce de graal qu'il faut quand même essayer de courir une fois, en tout cas qu'il faut aborder une fois dans sa vie pour être complètement accompli en termes de triathlète. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a beaucoup de gens qui font du triathlon autour de moi et puis qui manifestement hein, ont pas le gabarit ou ont pas les prédispositions pour faire ça, mais vont quand même s'attaquer à l'Ironman parce que c'est quelque chose qui, une fois dans sa vie, il faut avoir essayé.
Je pense que ouais, non seulement c'est une chose qu'il faut avoir essayé une fois dans sa vie quand on est triathlète, maintenant on a aussi beaucoup de battages médiatiques et du coup c'est vrai que quand tu rentres dans le triathlon, il y a beaucoup de gens qui par le jeu du marketing finissent par se dire bah ouais, c'est forcément là qu'il faut que j'aille, même s'ils sont pas forcément faits pour ça. Mais à l'inverse d'autres sports, par exemple tu prends la course à pied, tu peux très bien t'épanouir comme coureur sur du 5, sur du 10, sur du semi-marathon. Disons que même si le marathon est la distance reine de la course à pied, je pense pas que ce soit dans l'idéal de tout coureur de courir un marathon un jour. Par contre, monter sur la distance Ironman, je confirme que pour moi, c'est plus que l'idéal de tout triathlète qui se respecte.
Ouais, ouais, j'ai quand même vraiment l'impression que dans ce milieu, ça reste quand même ce mythe un petit peu passage obligé, enfin en tout cas pour beaucoup ouais, de triathlètes.
Enfin, une fois que tu es monté sur l'Ironman, je pense que tu as utilisé pas mal de joujou pour t'aider dans tes entraînements et je crois que tu en as fait une de tes passions annexes au sport.
Alors oui, pendant que je me mettais gentiment au sport, eh bien, je continuais en fait une autre de mes passions qui était l'animation de blog. Alors j'étais sur des blogs très très en avance sur le temps sur internet. J'ai eu mon premier blog, je crois, en 2003 ou 2004. Et puis, je parlais de tout et de rien là-dessus. Et au moment où je me suis mis au sport, eh bien, j'ai décidé de recentrer mon activité de blog sur mon activité dans le triathlon et dans le sport d'endurance. Et puis, j'ai commencé à publier quelques articles juste sur le matériel que moi, j'utilisais. C'est-à-dire que j'ai publié quelques informations sur le compteur que j'avais sur mon vélo, la montre que j'avais au poignet, puis comment je les utilisais. Et puis, plein d'autres sujets, des comptes rendus de course, et puis ce genre de choses. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que les articles qui faisaient de la fréquentation sur le blog, c'était clairement les articles sur lesquels je parlais de la techno, de mes différents gadgets. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à contacter les petits distributeurs autour de chez moi et puis ensuite les importateurs de Garmin en Suisse, de Polar, etc., pour savoir si je pouvais leur emprunter des derniers modèles qu'ils avaient sortis pour les tester et puis publier des comptes rendus sur le site internet. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé en fait à monter skianacan.ch aujourd'hui, c'est-à-dire un site qui fait principalement de l'analyse et du test de matériel technologique qu'on utilise dans le sport d'endurance. Donc que ce soit les montres, les compteurs, les capteurs de puissance, de cadence, les trucs connectés qu'on va se mettre un peu partout autour du corps pour mesurer nos performances et ce genre de choses. Et puis aussi bah, continuer à publier d'autres articles un petit peu plus en rapport avec ma propre pratique, des comptes rendus de course quand j'en fais, et puis deux, trois articles un petit peu sur l'actualité du sport ou de la technologie dans le sport d'endurance.
Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée quand je suis tombé sur ton site, en dehors de tests sur les montres de sport que tu faisais. J'ai bien aimé aussi le petit easter egg d'un article du 1er avril qui parlait du nouveau système GPS.
Oui, alors ça, c'était le 1er avril 2018. Hein, où effectivement j'avais un petit peu embelli la technologie GPS hein, en disant qu'il allait être précis à 2 cm près, qu'il était maintenant disponible avec des fréquences ultra précises, même 50 cm sous l'eau, donc que les triathlètes pourraient avoir des tracés GPS parfaits en natation en eau libre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais décrit tellement techniquement bien le truc que, en fait, tout le monde était sorti avec leur montre GPS pour tester ce truc-là le 1er avril parce qu'ils voulaient voir cette mise à jour que les Américains avaient fait sur le système GPS. Et puis, j'étais un peu emprunté après à faire le démenti. Non, mais les gars, c'était un poisson d'avril. Les articles que j'ai mis, c'est des vrais articles techniques sur GPS, mais ils parlent absolument pas de ça. Et puis, ils sont en anglais technique, donc on comprend rien de ce qu'ils racontent. Mais en fait, c'est pas vrai. Et voilà, bah, j'étais un peu emprunté après ce 1er avril.
Non, mais je trouve que c'est aussi un joli petit cadeau que tu as fait sur ton site. Donc, pour les auditeurs qui veulent savoir un petit peu qui tu es et quel est ton état d'esprit, bah, je vous invite à aller regarder cet article-là, à le lire. Non seulement vous verrez que le ton emprunté est relativement sérieux, la méthodologie que tu adoptes, c'est-à-dire qu'effectivement, tu cites tes sources. Bon, là, pour le coup... Comme tu l'as dit,
il y a quand même pas mal de bidons.
C'était du
mais
bidon.
Mais après, a posteriori, j'avais fait une analyse complète de tout ce que j'avais mis dans le texte avec, pour démêler le vrai du faux. Et en fait, il y avait plein de trucs qui étaient vrais. J'ai utilisé des terminologies qui étaient vraies, les noms d'équipes de maintenance au sol du système GPS qui étaient vrais, avec des sites qui étaient vrais. Mais autour de ça, bah, j'ai mis des informations qui sont des fake news, comme on dit maintenant, hein, d'utilisation de fréquences, de synchronisation d'horloges atomiques dans les satellites GPS. Donc, c'est des trucs hyper techniques. Y a des trucs vrais, il y a des trucs faux, et puis au total, ça donne un truc qui déconne un peu, quoi.
Bah bravo, tu es donc un gros profondeur en 2018 de fake news.
Ouais, bah écoute, j'en suis pas forcément fier, mais j'ai l'impression que le 1er avril, on y a droit. Et puis, bah, cette année, 2019, j'ai dit, je vais continuer à faire un truc sur le 1er avril, et donc j'ai publié un article le 1er avril cette année, mais j'ai dit, je vais faire un truc un petit peu plus gros, que ça se voit quand même. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la thématique de l'application Netflix sur les montres Garmin. Je me suis dit ça, c'est quand même suffisamment gros, les gens vont pas marcher, mais ben, j'ai été surpris, il y a quand même des gens qui ont hurlé au scandale dans les commentaires sur la page Facebook notamment, pour dire non mais franchement chez Garmin ils ont rien d'autre à foutre que de nous mettre Netflix sur une montre qui fait 3 cm de diagonale avec 64 couleurs, franchement... Voilà, donc j'ai trouvé ça rigolo aussi cette année, quoi.
Bah, le jour où Netflix se lancera dans le podcast, pourquoi pas ?
Bah écoute, oui, effectivement, mais Spotify, c'était quelque chose qu'on attendait dès que Garmin a annoncé la musique sur ses montres. Mais j'ai encore essayé de trouver des arguments plausibles et qui justifient l'utilisation de Netflix sur sa montre. Et j'ai dit notamment qu'au départ d'un marathon, quand t'es dans ton bloc de départ, t'as 20 minutes à attendre avant le coup de feu et puis que t'as envie de déstresser un peu, vite fait une série sur ta montre, hop. Ça pouvait presque être plausible pour quelqu'un qui est un tout petit peu naïf.
Ouais, pourquoi pas. Écoute, ce sera à tester. Peut-être même que tu devrais le suggérer à Garmin et autres fabricants, ça leur donnerait peut-être des idées.
Ouais,
avec
pas.
Un écran déporté et jetable, tu sais, que tu prends avec ton sac poubelle dans ton sas de départ de marathon. Une fois que tu as fini ta série avant que le coup de feu soit donné, tu jettes ton écran jetable et biodégradable.
Et écologique, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit dans l'air du temps. Hein. Ouais.
Avec ton sac poubelle.
Mais je vais leur proposer ça, mais franchement, Je suis pas sûr qu'ils adhèrent énormément au projet tout de suite. Faudra aller travailler au corps. Et on parlait de Spotify sur les montres Garmin. Sur Spotify, moi, j'écoute aussi des podcasts de tout et de rien. J'ai des podcasts en anglais, j'ai des podcasts en français. Puis j'ai quelques épisodes d'un podcast qui s'appelle ou qui s'appelait Nip Sport, dans lequel il me semble que je t'ai déjà entendu.
Et j'ai envie de te dire que la boucle est bouclée parce que j'ai commencé à me lancer dans le podcast en 2014 avec Nip Sport justement. On avait rejoint une famille de podcasts suisses qui s'appelle maintenant Nipcast, qui était basée à Lausanne. Et aujourd'hui, on fait la présentation de notre nouveau projet de podcast avec toi, qui est suisse, du canton de Vaud. Donc voilà, la boucle est bouclée, en espérant qu'on ait une plus longue vie que feu le projet Nip Sport et le projet Place au Sport, qui était un peu son digne successeur. On avait pour objectif, contrairement à Nip Sport, d'arroser un peu plus la planète médiatique et pas uniquement podcast. On voulait aussi se lancer dans la vidéo, dans des conférences. Bon, malheureusement, le projet est arrivé à son terme beaucoup plus tôt que prévu, mais c'était de belles expériences.
Eh bien, écoute, ça me fait plaisir de savoir que tu as déjà toute cette expérience dans le podcast et puis dans les médias annexes, comme ça va nous permettre tous les deux d'unir nos compétences respectives pour éviter de reproduire des erreurs types qu'on pourrait faire dans ce genre de projet. Mais en tout cas, ben voilà, en discutant avec toi des idées qu'on a pu avoir en développant le podcast, on s'est rendu compte qu'on avait déjà une liste de thématiques assez impressionnante, hein, à partager entre les deux. Donc je pense qu'au niveau des épisodes, en tout cas de cette saison 1 du podcast qui va se dérouler durant l'année 2019, Je me fais pas du tout de soucis sur le fait qu'on va trouver des thématiques, on va trouver des invités pour en parler, et puis on va essayer de développer des sujets intéressants pour nos auditeurs.
Ah, en effet, et justement, pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le premier épisode qu'on a programmé, qui sera diffusé dans 15 jours ?
Alors, oui, tout à fait. Donc, on s'est arrêté sur la thématique des montres de sport, mais on va pas parler d'une marque ou d'un modèle particulier, on va parler en général des algorithmes qui sont inclus dans ces montres pour nous aider à nous entraîner correctement, à planifier notre entraînement et puis à gérer notre quantité d'entraînement dans la semaine typiquement. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces algorithmes pour planifier un entraînement sérieux et pour arriver à des résultats probants dans l'entraînement sportif? Et puis pour ça, eh bien, on va en parler avec un Canadien que tu connais déjà d'une ancienne vie de podcasteur.
Oui, effectivement, on va recevoir Denis Boucher, le docteur Denis Boucher. Alors, je ne lui ferai pas l'affront de faire sa présentation, mais je pense qu'il nous honorera de sa présentation habituelle qu'il a déjà eu l'occasion de dégrainer sur les deux ou trois épisodes de podcast que j'ai déjà enregistrés avec lui. Denis, pour la petite histoire, il est médecin du sport au Québec et à Québec. Il exerce au Canada dans une clinique et il encadre des sportifs aussi bien amateurs jusqu'à élite, de la personne qui veut se remettre en forme et perdre un peu de poids jusqu'à l'athlète d'ultra-marathon qui va courir. Je crois qu'il avait des athlètes qui ont couru le marathon du désert de l'Atacama, donc 250 km, voilà. Des beaux profils, et donc il viendra nous inonder de sa science. Il va nous rappeler un peu à l'ordre sur les préjugés et les idées préconçues que l'on peut avoir quand on se lance dans le sport.
Alors effectivement, moi je me réjouis vraiment d'enregistrer cet épisode avec lui. C'est vrai que pour l'instant on est en train de régler les derniers détails logistiques et puis au niveau des différences d'horaires qu'on a avec Québec. Donc, une fois que tout ça sera réglé et puis qu'on pourra effectivement être en ligne avec Denis Boucher, bah, ça va vraiment être un plaisir, parce que pour avoir fréquenté d'autres Canadiens, je sais que c'est des gens qui défendent leurs idées sans avoir leur langue dans leur poche. Donc, en règle générale, ça donne des discussions animées et puis qui mâchent pas leurs mots. Donc ça, je me réjouis vraiment d'avoir ce genre de discussion.
Bah, écoute, je te laisserai rencontrer Denis, mais effectivement, il correspond tout à fait au profil que tu en dépeins. Alors, peut-être pas pour ce premier épisode, mais plutôt pour l'épisode 2, l'épisode 3. Je crois que tu voulais aussi donner la possibilité à nos auditeurs de prendre la parole.
Alors, exactement. Donc, au fur et à mesure que le podcast va être diffusé. L'idée, c'est que les auditeurs du podcast puissent laisser leurs questions. Donc, ils pourront laisser leurs questions par messages vocaux, puis on les intégrera dans les futures émissions du podcast, les futurs épisodes, pour répondre à leurs questions. Donc, on va choisir des questions soit générales sur la thématique qu'on va traiter dans un podcast, ou alors des questions plus techniques, ou alors des remarques par rapport au podcast lui-même, par rapport à la tonalité, par rapport à la durée des épisodes, ou ce genre de choses. Et puis, ça nous permettra aussi d'avoir un feedback du monde réel qui nous écoute sur Internet, et puis d'avoir un petit peu l'avis des gens. Donc, pour avoir toutes les informations sur comment nous laisser des messages pour ces futurs épisodes du podcast, c'est simple, vous trouvez toutes les informations sur le site internet podcast.nakan.ch, donc podcast, P-O-D-C-A-S-T, .nakan, N-A-K-A-N.ch. Donc, sur ce site, il y a toutes les informations sur Hermano et moi, donc comme ça, vous ferez plus ample connaissance avec nous encore, et puis surtout, les instructions pour se connecter et s'abonner au podcast sur toutes les plateformes que vous souhaitez. Donc, on va diffuser sur quoi ? Sur Spotify.
Sur toutes les plateformes classiques.
Donc là, il n'y aura vraiment aucune excuse pour ne pas écouter le podcast, parce que vu qu'on sera sur Spotify et sur Deezer, même sur la montre Garmin pour partir courir, on pourra télécharger le podcast avant de partir courir et l'écouter pendant qu'on s'entraîne. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse.
Je pense que là, nos auditeurs n'auront plus aucune excuse. Et puis, peut-être même que pour les plus jeunes qui sont des gros adeptes de YouTube, on mettra aussi juste le logo de l'épisode et on balancera le flux audio avec.
Voilà, donc même sur YouTube, on trouvera le podcast des sportifs connectés. Donc là, il y a vraiment zéro excuse pour pas l'écouter. Et puis donc sur ce site podcast.nakan.ch, donc on trouve aussi la procédure pour laisser des messages vocaux, et puis nous on y répondra avec grand plaisir avec Hermano et nos invités dans les futurs épisodes du podcast. Alors on pourra pas garantir qu'on répond à tous les messages, mais on en sélectionnera quelques-uns, et puis on y répondra répondra avec grand plaisir.
Effectivement. Puis si quelqu'un veut vraiment qu'on diffuse son message, je pense qu'ils trouveront facilement le moyen de nous contacter et puis d'insister pour que leur message soit véritablement diffusé. Mais attention, hein, pas de bêtises, on ne parle que de sport, messieurs dames.
De sport, mais dans le sens large. C'est-à-dire que toutes les thématiques qui touchent au sport, ça va du moyeu de la roue de vélo à ce qu'on mange le soir avant d'aller se coucher pour sa journée de récup. Donc tout ce qui touche au sport, mais par contre effectivement on va pas non plus marcher sur les plates-bandes des autres podcasteurs et on ne parlera pas de la saison 3 de Stranger Things sur Netflix par exemple.
Oh, ma fille va être déçue, bref.
Ouais, je comprends la frustration, mais bon, on peut non plus pas tout faire, puis il faut laisser un peu de place aux autres,
n'est-ce pas? Ah, peut-être qu'on lira le compte-rendu sur la montre Garmin avant le départ d'un marathon en regardant le spoiler sur Netflix, mais bon, bref, ceci est un autre débat.
Bien, donc, dans 2 semaines, le premier épisode, on se réjouit d'y être, et puis ensuite, bah, toutes les 2 semaines, un nouvel épisode, une nouvelle thématique, et bah, voilà, plein d'infos pour s'entraîner mieux, manger mieux, et puis vivre à fond sa vie de sportif.
Je m'en réjouis déjà. Et puis pour tous les auditeurs qui sont déjà fidèles après cet épisode 0, n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez et à y laisser des commentaires qui sont ceux que vous jugerez, ou attendez peut-être le premier ou le deuxième épisode. En tout cas, plus on aura d'auditeurs qui nous laisseront des commentaires, et plus ça nous fera remonter dans les rankings, et plus vous pourrez, grâce à nous, diffuser la bonne parole à tous les sportifs.
Alors, on vous en remercie déjà de laisser ces bons ratings et puis ces commentaires sur nos épisodes. Et puis, on se réjouit de vous retrouver dans 2 semaines avec Denis Boucher pour parler sans détour de algorithmes de charge d'entraînement, d'entraînement sportif, de coaching, enfin bref, tout ça dans un bel épisode du podcast des sportifs connectés.
Super, à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.